Chapitre 14. Les services de renseignement suisses ont probablement disposé, grâce à moi, des meilleures informations qu'il soit sur la nuit des longs couteaux, ce bain de sang dans lequel disparaît la marée brune. Partagés entre horreur et soulagement, les observateurs européens en viennent à admettre qu'il fallait en passer par là pour mettre un terme au déchaînement bestial des revanchards de la Grande Guerre. Les alliés du pouvoir allemand se repeuplent d'uniformes conventionnels, ceux de la toute nouvelle Wehrmacht, en lieu et place de la Reichswehr et des costumes stricts de la classe dirigeante. Je n'ai jamais reparlé à Reinhardt de ma participation indirecte au grand nettoyage. Personne n'a pleuré Rome, et mon agacement d'avoir été manipulé y trouve quelques apaisements. Je n'ai pas davantage revu le chancelier, et j'ignore s'il sait mon rôle dans l'affaire. Par ailleurs, les envois d'argent en provenance de Berlin se font plus nombreux et plus conséquents. J'aurai mauvaise grâce à m'en plaindre. Le pécule est si important que je n'ai guère de doute. Le trésor de guerre de l'ASA n'a pas été perdu pour tout le monde. Le robinet des versements israélites, en revanche, ne coule plus que d'un maigre filet sporadique et j'entrevois le jour où il n'en tombera plus une goutte. Depuis sa visite, il y a une vingtaine de mois, mon cher professeur Goldnadel n'a pas réapparu. Placé dans l'impossibilité de communiquer avec lui, comme avec tous mes déposants juifs allemands, je ne peux que conjecturer sur leurs conditions de vie, alors que tant de métiers leur sont désormais interdits et que les camps de concentration, peuplés de communistes et de sociaux-démocrates, commencent d'accueillir, si j'en crois une rumeur tenace, un certain nombre de prisonniers qui n'ont commis aucune autre faute que celle d'être nés israélites. Une seule fois, au début de l'été, un certain Théodore Mahler, muni d'une procuration en bonne et due forme, est venu s'assurer que l'argent de la communauté était bien gardé. Je lui ai montré les lingots et les pièces d'or pour les fonds que je détenais dans mes coffres, ainsi que les reçus, minutieusement classés, de différents confrères pour ceux que je leur avais confiés. Mon visiteur, un ingénieur, paraît-il, s'était déclaré satisfait et m'avait promis qu'il ferait un compte-rendu fidèle et détaillé à ses mandants, preuve que pour l'instant, ceci coule des jours, si ce n'est paisible, du moins sauf. Cet été-là, pour moi, se passe tranquillement. En vacances sur la Riviera française, j'y retrouvais Magda, venue prendre des bains de mer avec la petite fille qu'elle vient de mettre au monde. La maternité n'a en rien altéré sa beauté. Madame Goebbels est une femme resplendissante, dont la ligne et les formes feraient pâlir d'envie plus d'une chaste jeune fille. Si j'ai un regret à formuler à propos de nos échanges, c'est d'y observer que, loin de la volupté de naguère, la politique est devenue le sujet principal de nos conversations. Magda s'inquiète du rapprochement des monarchies d'Europe centrale qu'encourage la France. Selon mon ami, qui ne fait que rapporter, je le suppose, les analyses de son entourage, ces ententes entre la Grèce, la Roumanie et la Yougoslavie préfigurent une alliance générale contre l'Allemagne dont nul ne sait s'il sera défensive ou offensive. Les préoccupations de Magda me donnent à réfléchir au rapport de force dans les Balkans, cette terre de tous les dangers, mais aussi, le financier que je suis est bien placé pour le savoir, de toutes les opportunités. Ce même été 1934, les nazis tentent un coup d'État en Autriche. Benito Mussolini, dans une de ses volte-face qui lui sont coutumières, prend le parti de l'agresser. Il est évident que la puissance grandissante de son ex-protégé doit commencer à l'inquiéter. Il a d'ailleurs signé un pacte anti-allemand avec l'Autriche et la Hongrie. Il va plus loin encore en expédiant deux divisions à la frontière, prêtes à se porter en soutien de l'indépendance autrichienne. Le coup d'État ayant échoué, non sans que le chancelier Dollfuss y perde la vie, le Duce jette un nouveau pavé dans la mare. Tout comme le Polonais Pilsudski, il soutient que la guerre préventive constitue le seul moyen d'empêcher l'Allemagne de se réarmer. Ils ne seront écoutés ni l'un ni l'autre, mais les grandes manœuvres diplomatiques trouvent leur indispensable complément dans les grandes manœuvres militaires que chacun conduit à sa façon. En la matière, fidèles à leur légende, les généraux français ont soit un coup d'avance, soit plus fréquemment un coup de retard. Je ne suis pas très versé dans l'art de la guerre et n'observe que de loin la controverse qui oppose les tenants de la ligne Maginot à ceux bien moins nombreux de la guerre en mouvement que le capitaine de Gaulle, ancien élève prof du maréchal Pétain, préconise hardiment. Tout ce remue-ménage m'évoque le vieux débat 4 siècles plus tôt entre défenseurs obstinés des châteaux forts et précurseurs de la bombarde et du mousquet. Face à l'ennemi héréditaire, les généraux allemands ne font confiance qu'à eux-mêmes. Ils ont compris que les chars d'assaut leur avaient volé la victoire en 1918 et ne sont pas prêts de répéter cette erreur. Cela fait le bonheur des barons de l'acier, ces messieurs de la Ruhr, que les commandes massives de panzers et de canons enrichissent au-delà de toute proportion. Aux généraux de la jeune Wehrmacht, la ligne Siegfried, qui ne s'étend d'ailleurs que sur une faible portion de leur frontière, inspire une confiance toute relative. L'ouest de l'Empire peut cependant être considéré comme protégé. En revanche, les vastes plaines de la Poméranie et de la Prusse orientale sont ouvertes à tous les vents et en particulier au vent mauvais de ce bolchevisme qui inquiète tant l'état-major allemand. Que vaut l'armée rouge? Que valent ses généraux, au premier rang desquels Mikhaïl Toukhachevski, ministre adjoint de la Défense soviétique? Autant d'interrogations dont je m'entretiens avec mes amis allemands sans en retirer d'autres conclusions qu'une inquiétude tenace. Les Slaves du Sud, autrement dit les Yougoslaves, ne leur posent pas moins de problèmes, semble-t-il. Leurs capacités guerrières sont éprouvées. Aidés de la France, ils ont reconduit Autrichiens et Bulgares chez eux, voici 16 ans, leur infligeant une défaite si cuisante qu'il avait fallu que le vieux Clémenceau, jaloux de ses lauriers, stoppe l'armée d'Orient dans l'élan qui, sans cela, l'aurait conduite sans coup férir jusqu'à Vienne. Le roi Alexandre de Yougoslavie inquiète l'Allemagne d'Hitler. La gloire des Karadjordjevitch et son prestige personnel font de lui un partenaire écouté et de son pays une puissance régionale. Lors des durs combats de 1914 et de 1915 dans les montagnes macédoniennes, le fils de Pierre Ier de Serbie s'est forgé une âme et une réputation de combattant. On l'a vu, encore adolescent, faire le coup de feu aux côtés de son père, comme le prince Philippe à la bataille de Poitiers, lançant son fameux « Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche ». Les anciens combattants le portent au nu et, quand le vieux roi Pierre se retire, c'est tout naturellement Alexandre qui prend le pouvoir. À certains signes, je crois déceler que les services allemands s'intéressent à lui. Comment ne pas souhaiter la mort d'un francophile aussi convaincu, d'un aussi farouche germanophobe? Comment l'idée d'un assassinat ne germerait-elle pas dans les cerveaux de ces agents secrets qui n'ont guère d'autres sujets de préoccupation? Et quel terrain d'essai plus séduisant que la conception d'un meurtre avec son cortège de manipulations et de mensonges à tiroir? Nous avons souvent évoqué avec Roger Masson la théorie et la pratique du meurtre politique. Personnellement, je me suis forgé cette conviction que les auteurs d'un crime peuvent en ignorer le commanditaire et que le profit d'un assassinat n'est pas nécessairement celui qui apparaît au premier abord. Qui peut assurer, par exemple, que le roi Henri III fut le réel bénéficiaire de la mort du duc de Guise et que derrière les poignards d'Épernon et des Mignons ne se cachaient pas d'autres bras? Et Ravaillac, si promptement roué et exécuté pour avoir débarrassé Espagnol et ancien ligueur du bon roi Henri IV, n'était-il vraiment qu'un illuminé solitaire quand Marie de Médici et les Concini avaient tout à gagner de son crime? Passons sur tant d'épisodes qui démontrent l'utilité du régicide pour certains acteurs en coulisses et venons-en au théâtre des Balkans avec un bref retour en arrière. Pas plus tard qu'en 1914, il me semble qu'on en a bien vite collé sur le dos de la société secrète serbe, la Main Noire, l'attentat de Sarajevo contre le prince héritier d'Autriche. À y regarder de plus près, quel était l'ennemi le plus inflexible de ce prince libéral, acquis aux idées des autonomies hongroises, tchèques, voire croates? L'empereur François-Joseph en personne, vieillard irascible et jaloux, comme souvent les vieillards, et d'une autorité d'autant plus inflexible qu'elle se savait de courte espérance. Qu'avait à gagner la Serbie en revanche d'une guerre avec une puissance aussi colossale que l'Empire austro-hongrois? Ces questions trouvent probablement leur réponse dans l'attitude des deux gouvernements, celui de Vienne et celui de Belgrade, quand il fallut gérer la crise. L'un, l'Autrichien, multiplia les exigences, espérant sans doute les voir rejetées. L'autre, le Serbe, consentit, concession après concession, allant jusqu'à l'humiliation tant il était soucieux d'éviter la guerre. Il faut dire que le premier était prêt à l'attaque, le second épuisé après deux guerres balkaniques. Le premier était assuré de l'appui du deuxième Reich allemand et de la Bulgarie. Le second ne pouvait compter que sur l'appui hypothétique du lointain tsar de toutes les Russies. Il est clair au vu de ces faits qu'en déchargeant son pistolet sur François Ferdinand, Gavrilo Princip ne mécontentait pas ces messieurs de Schönbrunn. J'ai mentionné tout à l'heure des indices qui, cet été-là, me laissent à penser qu'une nouvelle menace pèse peut-être sur la Yougoslavie. Il se trouve que j'ai reçu quelques semaines plus tôt la visite d'un groupe d'industriels belgradois venus s'enquérir des possibilités de refinancement de leurs stocks. N'ayant aucune compétence dans ce domaine, je le leur ai dit aussitôt, mais ils insistaient tant et tant, me proposant de faire expertiser leurs demandes, leurs garanties et jusqu'à leurs biens personnels, que je leur ai promis un examen approfondi de leur dossier. Quand ils eurent quitté mes bureaux, et après mûre réflexion, il me vint à l'idée de faire un test, proposer à l'un de mes déposants, et pas n'importe lequel, de risquer cet investissement. Je pensais même très précisément à Adolf Hitler. Je décide donc d'en toucher un mot à Reinhardt, dont la confiance en moi est sans borne depuis que je me suis fait son complice contre Rome. L'occasion s'en présente en septembre, lorsqu'il vient accompagner à Berne une délégation allemande dans la perspective des Jeux Olympiques de 1936. Ses succès et sa réputation dans le domaine de l'escrime justifient en effet sa présence au milieu de sportifs reconnus. Comme cela lui arrive de plus en plus souvent, il ne me prévient qu'au dernier moment. Mais, comme je me dois par ailleurs de servir mon engagement patriotique, je prends en maugréant la route de la capitale fédérale. Reynard, quant à lui, se dégage de quelques-unes de ses réunions pour me consacrer le temps d'un bon tête-à-tête. Cela répond si bien à mes souhaits que je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'il devine mon statut d'espion et s'applique à en faciliter l'exercice. Une des occupations, en tout cas, qu'il a fini par me découvrir, c'est mon vrai rôle auprès d'Adolf Hitler. Ce n'est pas moi qui ai vendu la mèche. La fuite ne peut donc venir que du Führer lui-même. Bien que ma curiosité soit en éveil, je ne suis pas vraiment inquiet. Ce n'est pas tant le banquier, au fond, que son client, que protège le secret bancaire, et Reinhardt ne ferait ni ne dirait jamais rien qui puisse nuire à son idole. Cette fuite, quoi qu'il en soit, se révèle utile pour moi. Elle me permet, ce jour de septembre à Berne, d'aborder librement la question de savoir comment le Führer prendrait la proposition de placer une partie de ses fonds dans des activités rémunératrices en Yougoslavie. En réponse à ma question, Reinhardt commence par biaiser. Il proteste bien entendu de la réceptivité d'Hitler. Le Führer accepte tout dialogue, avec qui que ce soit, sur quelque sujet que ce soit. Ce qu'il ne supporte pas, c'est, une fois qu'il a pris sa décision, que l'on cherche à le faire revenir en arrière. S'agissant de toi, mon cher, qui bénéficie de toute sa confiance, je serais très étonné qu'il refuse de t'écouter. Très étonné, j'insiste. Si tu as une question précise, autant me la poser franchement, lance finalement mon ami. Comment me dérober? J'explique alors mon projet au chef du SD, qui m'écoute sans broncher, puis s'animant progressivement, il me donne un éclairage nouveau sur la situation yougoslave. Résultat de l'acharnement français à dépecer l'Empire austro-hongrois, m'explique-t-il, la Yougoslavie est un de ces nombreux fruits maléfiques du traité de Versailles. À cette création, aussi arbitraire que désastreuse, d'une pseudo-nation, est venu s'ajouter l'arrivisme des Karadjordjevitch. Leur responsabilité dans le déclenchement de la guerre est écrasante. Enfin, l'actuelle alliance, pour ne pas dire l'inféodation de Belgrade à Moscou, ne nous rend pas ce pays particulièrement sympathique. Ces derniers temps, nous suivons attentivement les intrigues françaises pour isoler l'Allemagne de ses alliés roumains en particulier. Et la patience de notre Führer est mise à rude épreuve. Comme tu le vois, conclut Reinhardt, le choix d'un investissement dans ce pays pour faire fructifier notre argent n'est donc pas, à première vue, des plus judicieux. Mon ami marque un léger temps d'arrêt, comme pour souligner la valeur de cette remarque, puis il poursuit. Cela dit, les événements pourraient ne pas tourner indéfiniment à notre désavantage. Si Alexandre était amené à quitter le pouvoir, son oncle Paul, qui nous semble plus ouvert à nos thèses, serait peut-être disposé à nous ouvrir cet accès vers la mer Adriatique dont nous avons tant besoin. Tu oublies qu'il y aura toujours l'Autriche pour vous barrer la route vers le sud et la Méditerranée. Cette Autriche que, précisément, les nazis ont tenté de bousculer un mois plus tôt. Pour nous barrer la route ou nous la permettre, mon cher, réplique mon ami comme s'il avait suivi ma pensée. Il n'est écrit nulle part que notre voisin du Sud doive nous demeurer éternellement hostile. Je ne bronche pas, il poursuit. En tout état de cause, c'est bien la Yougoslavie d'Alexandre qui barre notre route vers le Sud. Pour des raisons stratégiques et parce que l'Italie, tout empêtrée dans sa guerre en Somalie, que l'hypocrite Société des Nations condamne après l'avoir approuvée, nous paraît redevenir un allié de choix, il est nécessaire d'envisager un rapprochement avec Belgrade. Dans le cadre d'un tel rapprochement, évidemment, ta proposition d'investissement deviendrait tout à fait acceptable. Nous n'allons pas plus en avant ce jour-là. Par prudence, je repoussais, sine die, tout projet financier concernant Belgrade. Et c'est seul que je me repasse cette conversation bernoise. Je crois même l'avoir rapportée à Monica, tant l'assurance de mon ami et la flamme dans son regard m'ont interpellé. N'est-il pas de mon devoir d'alerter Masson dès lors qu'il me semble flairer quelques pistes d'importance? Je n'ai guère à attendre pour comprendre. Le 9 octobre, tout s'éclaire, ou, pour dire juste, tout s'assombrit. Ce jour-là, avec l'Europe entière, la Suisse apprend la nouvelle de l'assassinat, à Marseille, du roi Alexandre de Yougoslavie. Comme tout le monde, je prends connaissance de l'événement par la radio d'abord. Alerté comme je le suis par les propos de mes amis allemands, je m'empresse les jours suivants de décortiquer les articles de presse et de visionner les actualités cinématographiques. Dans les propos des journalistes, comme dans les images filmées, une évidence me saute aux yeux, l'insouciance coupable avec laquelle le gouvernement français a organisé le voyage royal. Insouciance d'autant plus injustifiable que, du côté yougoslave, la crainte d'un attentat semble avoir été certaine. Le fait qu'au lieu de gagner Paris en train depuis Belgrade, par exemple, le roi ait choisi d'emprunter le bateau jusqu'à Marseille, puis le train de Marseille à Paris, est révélateur des inquiétudes des services, le parcours terrestre frôlant en effet la frontière allemande. Au regard de ce qui est arrivé, la précaution paraît dérisoire, bien sûr. Du moins, le gouvernement de Belgrade l'a-t-il prise, lui, quand la France n'en prenait aucune. À Marseille, ce 9 octobre, la République a déroulé le tapis rouge pour cet hôte de marque, Alexandre de Yougoslavie étant avant tout, à ses yeux, roi de Serbie. La France n'a jamais caché sa profonde amitié pour ce petit pays, pour ce grand peuple qui a su, tout seul et le premier, se débarrasser de l'oppression ottomane, une oppression habile certes, apparemment tolérante, mais qui encourageait l'islamisation des Balkans chrétiens via l'institution des janissaires. Les privilèges accordés à qui choisissaient les enseignements du Coran divisaient alors les familles et fracturaient la société, but poursuivi par Istanbul. Rebelles à l'assimilation, orthodoxes jusqu'au bout des ongles, les plus intenables des Slaves du Sud n'avaient jamais digéré la défaite du Champ des Mers au Kosovo qui, en 1389, marquait la fin de leur indépendance. C'est donc à coups de boutoir que 4 siècles et demi plus tard, ils jetaient dehors l'occupant et reprenaient leur destin en main. Tout cela, les Français le savent, et depuis que pendant la guerre, leur sang s'est généreusement mêlé à celui des Serbes de Salonique, nul ne concevrait de les traiter autrement que comme les plus fidèles des frères d'armes. Le gouvernement a donc prévu de faire du grand port phocéen la première étape d'un voyage triomphal à travers la France jusqu'à Paris, où sont prévues les démonstrations de la plus vive amitié. Louis Barthou, ministre des Affaires étrangères, est venu au devant du roi. Il est en frac, au pied de la passerelle, lorsqu'Alexandre descend de son navire. Les troupes disposées sur le quai se figent dans un impeccable garde-à-vous. Parmi les officiers, on distingue les poilus d'Orient, anciens combattants des Balkans qui, quand il n'y avait plus de munitions, poursuivaient les combats à l'arme blanche. L'hymne serbe éclate, suivi de la Marseillaise. Le souverain et l'homme d'État s'inclinent devant le drapeau tricolore. Visiblement émus, tous deux montent dans la voiture décapotable. Face à eux, deux strapontins, l'aide de camp du roi et le colonel Georges. En retrait, la protection d'agents cyclistes de chaque côté du véhicule ayant été écartée, on ne sait pourquoi, deux officiers à cheval. Et c'est là que le drame éclate. À peine le cortège s'est-il ébranlé qu'un individu jaillit de la foule qu'aucun service de sécurité ne sépare des personnalités et bondit sur le marchepied. L'assassin a le temps de tirer 6 coups de feu à bout portant avant que l'officier à cheval ne le sabre, le laissant à terre. Il est trop tard, bien trop tard pour Alexandre, qui respire encore faiblement et que l'on allonge sur la banquette. La voiture, transformée en ambulance, fonce alors vers la préfecture, mais le roi meurt dans les bras de son aide-de-camp. Quant au ministre Barthou, qui a laissé la place au mourant, il part à pied dans la foule, perdant abondamment son sang. Il mourra en arrivant à la préfecture, sans que personne ne se soit soucié de lui. Le coup est terrible pour les deux pays. La presse, les politiques dénoncent les extrémistes croates. De l'Allemagne, il n'est pas question. En France, une crise politique éclate, tandis que le président Albert Lebrun vient assister en catimini au départ du Dubrovnik, où le roi a repris sa place, dans son cercueil cette fois. Albert Soro, ministre de l'Intérieur, doit donner sa démission. Le gouvernement de Gaston Doumerc, revenu au pouvoir en conciliateur, tangue dangereusement. Sa tâche, cette fois-ci, consistait à effacer les traces des journées insurrectionnelles de février, comme il s'était appliqué naguère à faire oublier les délires psychiatriques de Paul Deschanel ou les incartades caractérielles d'Alexandre Millerand. Avec la mort du roi Alexandre, sur le sol de la République, ses talents sont mis à rude épreuve. On cherche donc à minimiser le scandale. Les hommes politiques français n'osent pas aller affronter les reproches muets d'un peuple fier. Pour se débarrasser de ce mauvais pas, on dépêche le vieux maréchal Pétain, héros octogénaire de la guerre, dernier survivant du carré des grands chefs qui ont conduit les alliés à la victoire. Droit et svelte, il porte beau. Son merveilleux regard bleu séduit encore. À Belgrade, devant le catafalque, le vainqueur de Verdun retrouve une autre célébrité, Hermann Göring, ministre nazi, ex-héros de la Luftwaffe. Les intentions du gouvernement serbe vont toutes au maréchal, dont la présence met quelques baumes sur la plaie béante que laisse la disparition du roi soldat. 1934, se rappelle Georg Huber en se carrant au fond de son fauteuil. Quelle hécatombe! Sans compter les brutes tombées au cours de la nuit des longs couteaux, bien sûr. 1934, c'est en effet l'année où souverain et grand homme d'État passent de vie à trépas. Le plus étonnant est que toutes ces disparitions servent les intérêts personnels d'Adolf Hitler. À croire que l'analyse de von Adler a du vrai. En politique, il faut compter avec la chance, et la chance, en ces années-là, sourit de toutes ses dents meurtrières au chancelier du Troisième Reich. Avec le roi Alexandre de Yougoslavie, énumère pour lui-même le vieux militaire, part cette année-là le roi chevalier des Belges, Albert Ier, le vieux maréchal Hindenburg, le chancelier autrichien, Dollfuss, mais aussi Sergueï Kirov en Union soviétique et Raymond Poincaré en France, autant de grandes figures qui symbolisaient une Europe hostile à l'aventurisme nazi. 1934, songe-t-il encore, c'est aussi l'année où seuls les pays anglo-saxons font encore crédit à une Allemagne qui gonfle son budget d'armement à leur nez et à leur barbe. États-Unis et Grande-Bretagne s'obstinent encore à faire admettre le principe d'un réarmement allemand que, contre toute évidence, ils affirment contrôlable et limitable. Pendant ce temps, l'habile Hitler ménage et soigne plus que jamais ses relations avec le haut état-major. Grâce à l'accord du ministre von Blomberg, il obtient même que le traditionnel serment militaire allemand au peuple et à la patrie soit remplacé par un serment à la personne du Führer. L'ancien patron du renseignement helvète porte un jugement des plus sévères sur les naïfs et propagandistes de tout poil qui, analysant l'histoire après coup, prétendent qu'elle eût pu se dérouler autrement sans l'aveuglement coupable de tel ou tel. Loin de lui, par conséquent, l'idée de jeter la pierre aux observateurs et dirigeants européens d'alors. Pour l'historien amateur qu'il est, il est clair cependant que dès 1934, morceau après morceau, se met en place l'instrument de la revanche allemande. Il ne doute pas d'ailleurs que son prédécesseur, le colonel Masson, ait commencé dès cette époque de proposer à son gouvernement une telle analyse alarmiste. Georg Huber revient à sa lecture. Moi qui ai suivi, jour après jour, les suites et les comptes rendus tragiquement insuffisants au vu des informations privilégiées dont je dispose sur l'assassinat du roi Alexandre, j'assiste en pensée à ses funérailles, navré d'imaginer ma chère Allemagne potentiellement coupable, tout aussi navré de découvrir sur les photos un général Göring empâté et chamarré comme un dictateur sud-américain. Où est donc passé le héros de la dernière guerre? Et qu'est-ce que ce personnage vulgaire, tout droit sorti de quelque opérette, peut bien avoir en commun avec le fier guerrier de jadis? Je n'ai jamais rencontré Hermann Göring. Dans l'entourage d'Hitler, nul n'a souhaité que je lui sois présenté, et je ne m'en porte pas plus mal. Magda, qui le déteste, ne s'est pas fait faute, les rares fois où nous en avons parlé, de me brosser un portrait peu flatteur du personnage. Il faut dire qu'autour du chancelier, les rivalités, les méfiances, les haines ne manquent pas. Sous l'apparente fraternité des parades et autres spectacles du Reich, elles déroulent leurs longues volutes et au fond servent mes entreprises, puisque chacun se plaint de l'autre et que muet comme une tombe, ou comme un banquier helvète, je suis l'oreille idéale pour nombre de confidences. Une oreille étonnamment bien placée. Et d'autant mieux à mesure de l'ascension de Heinrich Himmler et, dans son sillage, de Reinhard Heydrich. L'homme aux fines lunettes d'acier vient en effet, et coup sur coup, d'être promu chef de la Gestapo, puis ministre de la police. Bras droit du Reichsführer, certains disent même son âme damnée, mon ami est définitivement embarqué dans une ascension dont il est, à mes yeux, l'otage autant que le héros. Sans le vouloir, ni m'en défendre, il m'arrive d'en profiter, comme en témoigne l'aventure que je veux narrer ici, survenue à la Noël de cette année 1934. Je suis invité fin décembre par un client bernois qui possède un chalet à Garmisch-Partenkirchen et forme le projet de m'y retenir pour la célébration de la nativité. J'ai un faible pour la veillée de Noël à l'allemande ou à l'autrichienne et déteste par ailleurs la solitude des fêtes. Aussi n'a-t-il pas grand mal à me convaincre et me voilà, ce 22 décembre, débarquant dans la célèbre station allemande. J'y retrouve l'air pur de mes vacances d'adolescent et j'oublie d'un coup toutes ces préoccupations qui constituent mon ordinaire. La bienveillance de la vie veut que je renoue pas seulement avec des sensations ce premier soir, mais avec des êtres humains que je croyais perdus à jamais, avec une rêvassante jeune femme, notamment croisée à l'hôtel du Chamois bondissant, où je sirote un vin chaud. Je ne la reconnais pas de prime abord, mais elle me fixe avec étonnement avant de s'écrier « Mein Gott, Gottfried !» La voix, le sourire, l'expression de ce visage rieur font ressurgir dans ma mémoire un délicieux souvenir. Celui d'un baiser volé, à 20 ans, sur les pistes de Garmisch, à une jeune fille prénommée Greta, qui était fille de l'hôtelier. L'adolescente, un peu grêle, est devenue une splendide jeune femme. Ses yeux rient toujours autant, sur ses joues, les taches de rousseur sont plus aguichantes que jamais. Quant à la bouche, en accroche-cœur, si elle a perdu l'innocence d'alors, c'est pour gagner en sensualité, m'apparaît-il aussitôt. Il ne faudrait jamais courir après ses souvenirs d'enfance. Au mieux, ils déçoivent, au pire, ils désespèrent, surtout lorsque les sentiments s'y mêlent. Je n'y prends garde, et, mon penchant pour le beau sexe aidant, j'engage une aventure avec Greta, désormais hôtelière du Chamois bondissant, et nullement mécontente de mettre un peu de piment dans son quotidien. La relation est plus sérieuse, bien sûr, que celle inachevée de nos vertes années. Nous y prenons grand plaisir, l'un et l'autre, l'hôtel nous offrant toutes ses commodités et ses risques. Car il arrive un jour, ce qui devait arriver, quelque intrigant ou jaloux a le mauvais goût de raconter son infortune au mari de Greta. Le lendemain matin, au terme du descente à ski, j'aperçois au bas des pistes deux personnages peu sympathiques dont la raideur détonne avec les vacanciers. D'aussi loin qu'ils me voient, ils me désignent du doigt. leurs intentions sont manifestement hostiles. Soucieux d'éviter un esclandre dont Greta pâtirait, je décide de les éviter. Connaissant bien les pistes, je sème les lascars, fonce chez mon hôte et prétexte une urgence pour embarquer mon bagage et sauter dans ma voiture. Les deux sbires, entre-temps, ont retrouvé ma trace. Voilà qu'ils apparaissent dans mon rétroviseur. Confiant dans mon auto, comme dans mes qualités de conducteur, je roule à vive allure tout en réfléchissant. Je me rappelle soudain une allusion de Greta à l'appartenance de son mari à la Gestapo. Elle semblait même, en bonne allemande, en éprouver une certaine fierté. De là à déduire que les deux acharnés appartiennent à la maison d'Himmler, il n'y a qu'un pas. Je le franchis aussitôt. La chose est à la fois inquiétante et rassurante. Inquiétante, car je n'imagine que trop les méthodes de la police secrète. Rassurante, quand je songe à mes relations au sein de l'appareil. Encore, faudrait-il qu'ils en soient informés, les deux abrutis qui m'ont pris en chasse. Ce qui est impossible. Je dois me rendre à l'évidence que, protégé ou pas du Reichsführer, le mieux dans ma situation est encore d'échapper aux deux malabars. J'appuie donc sur l'accélérateur. Tout irait bien si au détour d'un virage n'apparaissait dans mon champ de vision une voiture posée en travers de la chaussée. Visiblement hébété, le conducteur quitte son véhicule et zigzague comme un animal tentant d'échapper à un prédateur. Je suis forcé de freiner. Bolide incontrôlé, ma voiture frôle dangereusement le devers, puis file s'enfoncer dans le véhicule arrêté, le propulsant à une bonne vingtaine de mètres. Malgré le choc, je n'ai perdu ni mon sang-froid, ni mes facultés, et m'extrais sans peine de la masse de tôle qui obstrue à présent la route. L'autre conducteur, vieil homme drapé dans une houppelande à col relevé, s'en est tiré lui aussi. Il a juste le temps d'esquisser vers moi un pas chancelant lorsque, évitant de peu le carambolage, le véhicule de mes poursuivants pile devant nous. Les deux hommes en descendent aussitôt. En apparence, nous sommes trois touristes inconnus qui dévalons un peu vite la route, ce qui n'est ni malin ni interdit, et que seul le hasard met en relation. En réalité, la situation est plus périlleuse, ce que me confirme l'un des gestapistes qui, faisant fi de la présence d'un témoin, me fonce dessus en m'apostrophant. « Monsieur Adler ?»« Von Adler, monsieur, à qui ai-je l'honneur ? Gestapo, veuillez nous suivre. »« Et pourquoi, s'il vous plaît ?»« Parce qu'il me plaît, précisément. En ce cas, je ne vous suivrai pas. » Un objet dur s'enfonce dans mes côtes, le canon d'un revolver braqué par l'autre homme. D'une voix presque douce, ce dernier me raisonne. « Allons, monsieur Von Adler, ne faites pas d'histoire. Montez dans notre voiture. Disons que nous vous secourons. Je suis citoyen helvétique, et je n'ai pas à déférer à vos ordres sans savoir pourquoi. » Un violent coup de poing dans le plexus me ramène aux réalités. Suffoqué, je m'affaisse. Je n'ai qu'une pensée, ne pas tomber, rester debout face à ces brutes. De toute ma volonté, je résiste, cherche en moi un reste d'énergie, et miracle, lentement, je réussis à me redresser. Tous deux me dévisagent, à peine haineux, méprisants plutôt. Ce que je lis dans leur regard me donne le courage ou la témérité de répéter encore. « Vous pouvez partir, je ne vous suivrai pas. » C'est là que le vieil homme que j'avais oublié songe à s'interposer. « Attendez, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit. » Manifestement, ce bref pugilat lui a rendu ses esprits. Il paraît effrayé de ce qu'il vient de voir, mais courageux, se porte à mon secours. « Qui c'est celui-là? Je ne sais pas. Un bourgeois qui nous emmerde. » Interloqué par cette grossièreté, le vieillard ouvre de grands yeux et plonge la main dans sa poche de son long manteau pour y chercher des papiers sans doute. Avant qu'il ait eu le temps de les sortir, son geste est tranché net. Un coup de feu a retenti dont l'écho dévale la vallée. L'homme à la houppelande chancelle une seconde ou deux. Il esquisse un pas en direction du tireur et s'écroule face contre terre. Alors seulement, je comprends que ma vie ne tient plus qu'à un fil. Je viens d'être témoin d'un meurtre et l'assassin n'est pas de mes amis. Tuez-moi aussi si vous le voulez, mais je ne vous suivrai pas. Je crois avoir prononcé ces mots, ou du moins les avoir pensés très fort, mais je n'en suis plus très sûr, pas plus que je ne me rappelle de ce qui s'est passé ensuite. Car lorsque je me réveille, je ne sais quand et je ne sais où, le décor où je me retrouve allongé sur un sofa est celui d'une pièce où une demi-douzaine d'hommes, en bras de chemise, s'affairent, manifestement contrariés. Il revient à lui. « Attention les gars, plus de conneries, ça suffit comme ça. » Le ton de cette voix est normal, ce qui me paraît de bon augure. Je tourne la tête dans sa direction. L'homme qui parle est en complet veston, jambes écartées, bras croisés sur la poitrine. Il me dévisage attentivement. Nos regards se rencontrent. « Vous vous sentez mieux, monsieur ?» Je hoche péniblement la tête sans parvenir à sortir un son. « Tenez, buvez, cela vous fera du bien. » Je me redresse, tant bien que mal, prends d'une main vacillante le verre que l'on me tend, du schnapps apparemment, une bonne framboise qui m'enflamme le corps. Je me pose sur un coude et tente de me relever. Non, non, restez couché, le médecin arrive. Quel contraste avec la scène de mon dernier éclair de conscience. Me voici redevenu humain, au milieu d'autres êtres humains, même si j'eusse préféré meilleure compagnie. Les choses à présent s'enchaînent très vite. Le médecin venu constater que je n'ai rien de cassé, me palpe longuement le crâne, hoche la tête et se dirige vers l'homme à la voix douce. Il lui parle longuement, sans que je puisse capter ses explications. L'autre écoute, réfléchit et revient vers moi. « Vous n'avez rien de bien méchant, mais nous allons tout de même vous emmener à l'hôpital. » J'ai beau n'avoir pas les idées claires, cette sollicitude m'étonne. Je ne comprends rien à rien, et à mesure que mes pensées se remettent en marche, les questions commencent d'y affluer. « Mais où sommes-nous, monsieur ? À Munich ?» Tout en parlant, je jette un œil à la fenêtre, par-dessus son épaule. Dehors, il fait nuit. Même si les journées sont courtes en décembre, je réalise que j'ai dû perdre connaissance pendant plusieurs heures. Comme j'ignore la cause de mon évanouissement, cela ne me tracasse guère. D'ailleurs, le remue-ménage que j'observe autour de moi me convainc que rien ne peut m'arriver de fâcheux. J'en viens même à me demander si je n'ai pas rêvé la mauvaise rencontre faite avec deux assassins de la Gestapo. N'ayant ni le droit, ni surtout la force de me lever, j'observe les lieux où je me trouve. C'est un bureau, de larges proportions, avec sur l'un des murs un portrait de Hitler en uniforme. Le Führer semble me considérer avec sévérité, mais sans hostilité. La photographie est de bonne qualité et porte la mention « Adolf Hitler, Führer du Troisième Reich ». Au-dessous se tient le fauteuil du maître des lieux, l'homme à la voix douce, je suppose. Devant, un bureau de bois clair, impeccablement désert, à la notable exception de deux appareils téléphoniques en bakélite noir. Pas de chaise dans ce bureau, ni d'autre fauteuil. Le canapé où je repose a dû être apporté ici pour les besoins de la cause, et je suis cette cause. Des blouses blanches arrivent qui, en dépit de mes molles protestations, me couchent sur un brancard et m'insèrent dans une ambulance qui démarre aussitôt. Curieuse impression que de voir défiler le paysage à l'envers, non, un étrange, et le détachement où je me sens, comme si le monde auquel j'appartenais encore il y a quelques heures avait perdu toute réalité. Depuis mon réveil tout à l'heure, j'évolue dans un univers flou qui pourrait aussi bien être un rêve. Seule pensée lucide, dans ces images précises mais peu cohérentes, le sentiment de la précarité de notre condition humaine. Précarité qui, bizarrement, ne m'attriste pas plus que ça. Les airs de Madone, graves et empreints de bonté, que prête son voile et sa longue blouse à l'infirmière assise à mon chevet, sont peut-être pour quelque chose dans cette indifférence, à moins que ce ne soit l'état de choc. L'ambulance ralentit. Nous sommes dans l'enceinte d'un hôpital. Roulant ou pas, le véhicule parcourt ce que j'imagine être les derniers mètres, puis s'immobilise. La porte s'ouvre sur deux gaillards en blouse blanche qui empoignent le brancard et m'embarquent. S'ensuit le tour des services, radiologie, chirurgie, autant d'étapes où je décèle, au front soucieux des praticiens, que l'incident n'est peut-être pas si bénin que cela. Mais les demandes que je formule demeurent chaque fois sans réponse, ou plutôt, si, toujours la même. Le médecin-chef va venir vous voir. La perfusion censée me donner un coup de fouet, ayant en réalité l'effet inverse, je finis par sombrer dans un sommeil haché dont je n'émerge que le lendemain, lorsque le fameux médecin-chef, un colosse bien en chair, surgit au pied de mon lit. Il entame son discours avec des précautions oratoires que j'ai du mal à associer à son physique de déménageur. « Monsieur le comte, commence-t-il, j'ai juste la lucidité de me demander. Comment connaît-il mon titre, celui-là ? Vous avez fait hier une mauvaise chute, tiens donc, c'était une chute, et vous avez subi un sérieux traumatisme crânien. Pour ne rien vous cacher, vous avez une fêlure de l'os occipital, sans enfoncement, mais qui nécessite que vous restiez ici quelques jours. Quelques jours, c'est-à-dire deux semaines. Vous devez comprendre que toute nouvelle chute pourrait vous être fatale. » Se moque-t-il de moi ? Ai-je l'habitude de tomber ainsi, tout seul, sans qu'on m'y aide ? Me prend-il pour un idiot ? Croit-il qu'avec ma prétendue chute, je suis devenu amnésique ? À ces questions qui s'entrechoquent dans ma tête, mais que je garde pour moi, il faudra bien des réponses un jour ou l'autre. Mais ce jour n'est pas encore venu. Je me sens beaucoup mieux, d'ailleurs, dans ce milieu hospitalier commun des brutes de la Gestapo. Avec un peu de doigté, je pourrais me sentir mieux encore, pourvu qu'on me ramène chez moi. Puis-je travailler, docteur ? Sans difficulté. Alors je veux bien être hospitalisé, mais je vous prie de me transférer à l'hôpital cantonal de Zurich. Ainsi, mes collaborateurs pourront venir me voir. Ma requête, manifestement inattendue, plonge le médecin dans un abîme de perplexité. Il hésite. « Dans l'état où vous êtes, ce ne serait guère raisonnable, commence-t-il. Ma détermination commence à me revenir. Vous avez des ambulances très confortables, il me semble, et un personnel suffisamment expérimenté pour m'accompagner sans risque dans ce petit voyage. De toute façon, j'ajoute en détachant les mots, vous ne pouvez me retenir ici contre mon gré et je veux regagner la Suisse. Dois-je faire intervenir les quelques amis que j'ai dans votre pays ? C'est la première fois que j'évoque quoique sans les nommer, mes relations en haut lieu, et je note que mon vis-à-vis n'en paraît nullement étonné, ce qui signifie qu'il est au courant. Mais, en ce cas, comment a-t-il su? Quelqu'un a-t-il pris la peine de se renseigner? Quelqu'un d'autre d'intervenir? L'un ou l'autre, à l'évidence, sans quoi l'homme à la voix douce d'hier n'aurait pas eu cet air contrarié. Pas plus qu'il ne se serait montré aussi empressé. Mais qui et comment? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire et à quoi, à qui dois-je la vie sauve quand un vieil Allemand innocent l'a perdu, lui, sous mes yeux? Je n'aurai le fin mot de l'histoire que quelques semaines plus tard, et par un détour des plus surprenants, la visite de mon ami Constant Gardien, qui accompagna si fidèlement les derniers mois d'Isabella, et m'est resté tout aussi fidèle pendant les 2 semaines de mon repos forcé à l'hôpital de Munich, multipliant les appels pour s'enquérir de mon état et les initiatives heureuses pour contribuer à l'améliorer. Ce jour-là, avec une mine songeuse que je lui ai rarement vue, Constant se fait un devoir de m'expliquer qu'il a mené son enquête pour comprendre ce qui m'était arrivé. Il a fait jouer ses relations, ses circuits parallèles et solidaires que défendent jalousement les membres du corps médical. C'est alors que se déroule, entre mon ami médecin et moi, une de ces conversations surréalistes dont on ne sait si le plus étrange en est le fond, les informations qu'il véhicule, ou la forme précautionneuse, chacun faisant à saut de discrétion, à la fois pour taire ses sources et pour ne se mêler en rien des secrets de l'autre. « Sais-tu que tu l'as échappé belle ?» lance Constant de but en blanc. « Vraiment ? En quoi ?» Si proches que nous soyons, je ne me soucie nullement de lui conter l'aventure galante qui m'a mis en si fâcheuse posture. Mais mon ami devance mes réticences. Pour une raison que j'ignore, et je ne veux pas savoir, la Gestapo a voulu t'arrêter. T'en souviens-tu, au moins? Parfaitement. C'est même mon dernier souvenir avant l'accident. Bien, l'interpellation se serait mal passée. Un coup de feu aurait été tiré, accidentel selon la version officielle. Tu te serais débattu et serais tombé à la renverse, toujours selon la version officielle. Mais, car il y a un mais, l'examen pratiqué à l'hôpital a révélé des ecchymoses au front et des contusions aux épaules qui indiquent que tu es tombé face contre terre, non en arrière. Je me tais et le laisse poursuivre. Lorsque j'ai trouvé dans ton dossier médical cette référence à tes blessures faciales, confirmée par les marques sur ton visage, j'ai aussitôt téléphoné à un confrère, chef de service à l'hôpital de Munich, en qui j'ai toute confiance. Ce cher professeur a bien voulu mettre son nez dans quelques dossiers, et je crois avoir découvert le poteau rose, conclut mon ami triomphant. Qui est passionnant, mais particulièrement dangereux. En fait, tu as été frappé sur la nuque avec un objet contondant, probablement une barre de fer ou une crosse de revolver. La violence du coup t'a fait sombrer dans une sorte de coma et tu t'es réveillé à l'hôpital. Non. Comment cela, non? Non, Constant. C'est une des rares choses dont je me souvienne. Je me suis réveillé dans un bureau, je ne sais pas lequel, où des gens que j'imagine appartenir à la Gestapo se sont occupés de moi avant de m'expédier à l'hôpital. Alors je comprends mieux, murmure mon ami pensif. Qu'est-ce que tu comprends mieux? Je comprends pourquoi tu es sorti vivant de ce piège. Constance se tait un instant, puis reprend la mine sérieuse. Je ne te poserai pas de questions, Gottfried. Ta vie est ta vie, elle ne me regarde pas. Mais je te demande en retour de ne pas m'en poser non plus. Le voilà bien solennel, soudain. Mais sa soif de discrétion m'arrange. Aussi, d'un simple hochement de tête, je lui donne mon assentiment. Peu importe donc comment j'ai appris tout ce que je vais te conter maintenant, sache seulement que ces renseignements sont fiables, tu peux les croire sur parole. Un nouveau hochement de tête, que souligne mon regard attentif, l'assure de ma totale confiance. Figure-toi qu'il y a eu un témoin à ton arrestation. Le mort? Non, pas le mort, sa fille. Quelle fille? Une jeune femme restée dans la voiture que tu as percutée. Mon Dieu, tu peux le dire. Sans t'en rendre compte, tu l'as peut-être sauvé la vie. Quant à elle, elle a sauvé la tienne à coup sûr. Coincée dans l'auto, dont les portières étaient bloquées, la jeune personne a tout vu, sans être vue elle-même. D'après sa déclaration, tout s'est passé très vite. Le tueur exécutant froidement son père, puis te brisant la nuque, ou peu s'en faut, puis les deux brutes affolées te jetant dans le coffre de sa voiture et s'enfuyant à bord de la leur. Constance s'arrête un instant, moins pour ménager son souffle que pour me laisser le temps de reprendre le mien, car c'est de moi qu'il s'agit. De ces minutes de ma vie dont je ne sais rien et qui auraient pu, tout aussi bien, être les dernières. C'est un paysan qui a trouvé la jeune fille en état de choc, reprend-il. Il l'a tirée de là, ramenée chez lui, puis accompagnée à la police locale dont il connaissait les agents. Sa déclaration, celle de la jeune fille, tout a été consigné. Inexplicablement, ce procès-verbal est aujourd'hui porté disparu. Mais l'essentiel était fait, l'alerte avait été donnée, et comme le brave sauveteur appartient au parti nazi, la liquidation définitive devenait impossible. Je réalise la chance que j'ai eue, dis-je stupéfié par cet enchaînement de hasards dans lequel je ne peux voir que la main de la Providence. Attends, La suite est encore plus extraordinaire. Lorsqu'on t'a déposé au poste, un sous-officier de la Gestapo, un SS, t'a aussitôt reconnu. Il t'aurait croisé à Berlin, affirmait-il, au siège de la SS. Je dois reconnaître qu'en cet instant, mon ami fait preuve d'une discrétion hors pair. Pas un trait ne bouge dans son visage et son regard ne laisse pas filtrer la plus petite expression de curiosité. L'homme aurait même précisé que ce jour-là, tu te trouvais dans le bureau de Himmler, poursuit Constance sans ciller. Imagine un peu la panique qu'il a suscitée. Quel culot, fais-je pour donner le change. Oui, mais un culot qui t'a servi. Je reconstitue à présent l'enchaînement probable des faits. La vérification des dires du sous-officier, la confirmation par Berlin, peut-être même le menaçant soupçon du cabinet d'Himmler, pourquoi ces questions qui auraient déclenché l'alerte maximale. La moue gourmande désormais, comme si tout cela n'était que blague de potage réalisée au nez et à la barbe de quelques proviseurs imaginaires. Constant poursuit son récit. Le plus beau est survenu le jour d'après ton admission à l'hôpital. La clinique a en effet reçu un message de recherche te concernant. Ce message émanait du SD de Reinhard Heydrich en personne. Il lui fut répondu que tu étais hospitalisé bien sûr, et le Standartenführer aurait aussitôt fait passer l'ordre que l'on prenne le plus grand soin de toi. C'est tout ? C'est déjà pas mal, non ? Effectivement, la nouvelle de ma relation avec Heydrich a dû faire exploser la Gestapo locale et les deux brutes recevoir de chaudes félicitations. À cette idée, un sourire me barre le visage d'une oreille à l'autre. Constant Gardien part d'une quinte de tout providentielle. Il mérite bien d'être suisse.